Eh bien, nous sommes en direct sur Europe 1, l'antenne libre. C'était Yves Simon, les bateaux du métro, 1973, me semble-t-il. Et je suis là, à La Palme, en direct, dans cette magnifique ville de La Palme, en compagnie de Nicolas, de Mathilde et de Benoît. Et d'ailleurs, Mathilde va nous présenter, les amis. Enfin, certains sont déjà des amis, d'autres pas encore. L'amitié, ça ne se décrète pas, ma chère Mathilde. Hein, forcément, ce serait trop facile. Mais en compagnie de gens que nous sommes à même de pouvoir apprécier dans les siècles à venir et qui sont là avec nous ce soir. Et je vais vous demander, ma chère Mathilde, de bien vouloir nous les présenter si cela ne vous dérange pas.
Aucun problème. Alors, je vais commencer par vous, Henri Fort. Bonsoir. Vous êtes le premier adjoint au maire de La Palme et Amélia Courtiel est également parmi nous. Bonsoir. Alors, vous êtes adjointe au maire, chargée de la culture. Aurélia Courtiel. Aurélia Courtiel, qui est chargée de la culture et des associations. Et à ma gauche se trouve Sonia Marty. Bonsoir. Vous êtes agent d'accueil polyvalente et je crois que vous nous réservez une très belle surprise pour tout à l'heure. Et vous êtes accompagnée de Romain. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ce soir, je vous propose d'écouter l'extrait d'un film. Il était à l'époque en cours de tournage en Hongrie. Et pour être plus précise, c'est une adaptation d'un livre datant de 1897. Et donc, près d'un an avant sa sortie, la station offrait à ses auditeurs et auditrices une séquence inédite. Ça s'est passé sur Europe 1 le 29 juin 1989.
Mathilde, on peut écouter le bruit des glaçons du pastis ou pas?
Alors, sur Europe 1. Est-ce qu'on les entend bien?
Oui. Europe 1, la radio des alcooliques modérés. Mais je plaisante, mais c'était pour voir la tête de Nicolas. Les gens n'ont plus d'humour. Allez, je
on
vous laisse
à votre l'extrait.
Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre.
Évidemment, le film de Cyrano de Bergerac, pardon, incarné par Gérard Depardieu, et le réalisateur Jean-Paul Rapneau qui avait décrit au micro d'Europe 1 l'accessoire phare du film, le fameux faux nez.
Je dois dire que le nez que nous lui avons fait est tellement extraordinaire, je trouve. Enfin, lui va si bien que quand il l'enlève et qu'on voit apparaître son vrai nez, on a l'impression que son nez est véritablement amputé. C'est-à-dire que pour moi, il est vraiment devenu, pour moi et pour lui, il est vraiment devenu le personnage de Cyrano. Quoi. C'est extraordinaire.
En 1990, le film a obtenu au fil des années plus d'une trentaine de récompenses.
La manière dont Gérard Depardieu dit Cyrano dans ce film, il dit les alexandrins de Cyrano comme jamais ils n'ont été dits avant lui. C'est-à-dire, il casse complètement l'alexandrin, il le dit sans respecter vraiment l'ascension, d'une manière presque totalement inadmissible, et ça marche. On a l'impression que ça a été écrit pour lui. C'est vraiment absolument fascinant. Je crois que c'est Coquelin le premier qui avait qui créé le rôle à l'époque, mais je crois que c'est le plus grand Cyrano qu'on ait jamais eu. Vraiment, je le pense, franchement. Merci Mathilde pour cette belle archive. Et donc, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par saluer notre ami Henri Forgue. Mon cher Henri, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais à la radio. Là, on est à La Palme, donc il y a des choses, on n'a pas envie de trop tricher. Donc, je vais te demander de faire la même chose. Je vais te tutoyer, mon cher Henri. Parce que, comme on se tutoie dans la vie, j'ai pas envie qu'on se voit là, ça va donner quelque chose de faux. Et puis, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc je me permets ce tutoiement. Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es, que fais-tu à La Palme, d'où viens-tu, où vas-tu, qui es-tu, Henri Forgue?
Bonsoir Yann, je vais essayer de résumer.
Je crois qu'il y a un petit problème de micro. Attends, mon cher Henri, c'est les mérites, les joies, les fascinations, les délices du direct. On t'entendait pas, mais maintenant, je crois que ça va être le cas. Donc, mon cher Henri, c'est à toi.
Bonsoir Yann, eh bien, à ta demande, je vais essayer de résumer 64 ans de vie en quelques mots. Puisque tu me demandes qui je suis, alors très simplement, je suis à la fois palmiste et leucatois, c'est-à-dire que je suis originaire de Leucate et de La Palme. Et puis, j'ai vécu quasiment toute ma vie dans ce secteur, notamment dans ce secteur des corbières maritimes, à La Palme, mais aussi à Portel, à Sigean, à Périac-de-Mer. C'était l'endroit où je travaillais. J'étais directeur de cave coopérative, j'étais directeur des caves Roquebert pendant 30 ans. J'ai travaillé dans le vin et puis j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir travailler sur un projet qui était magnifique, qui était transformé des anciennes carrières de gypse en chaîne de vieillissement, en même temps en produit touristique. Et ça a été la création de Terra Vigna. Et puis après,
ça d'ailleurs, nous allons y aller dimanche.
C'est parfait, voilà. Parce que c'est un immanquable. Non, c'est vraiment un très bel endroit. Et puis c'est tellement décalé par rapport à ce qu'on connaît dans les chaînes de vieillissement que ça mérite des tours. Et donc, à la suite de ça, j'ai travaillé aussi au Grand Narbonne avec Jacques Bascou. Je travaillais à l'Aglour. Et j'ai travaillé aussi dans le sel avec mon ami Pagabanou. Et on a travaillé aussi quelques années ensemble donc dans la vente du sel, dans la mise en place de gamme pour... autant pour la distribution traditionnelle que pour la grande distribution.
Je t'interromps, la mise en place de gamme pour le sel, ça veut dire quoi ?
Ben le sel, c'est très varié, le sel. On a de très nombreuses catégories de sel. Ça va des sels les plus connus, les sels fins, les gros sels, en passant par la fleur de sel jusqu'au sel aromatisé, etc. Et puis les contenants ne sont pas les mêmes. Et puis enfin, il y a tout un marketing qui est fait autour du sel. Et puis aujourd'hui, le sel est devenu... un produit noble, c'est-à-dire que les chefs étoilés ont tendance aujourd'hui à mettre en avant les sels qu'ils utilisent, en donnant les origines, etc. Je pense que c'est un petit peu Guérande qui a été à l'origine de cette démarche, mais aujourd'hui tous les salins travaillent sur justement une personnalisation des produits.
D'accord, Henri. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes à La Palme ? En quelques mots, qu'est-ce que tu aimes à La Palme ? Qu'il a de spécial, ce village ?
Si tu me demandais ce que j'aime pas, ça irait plus vite. Mais puisque tu me demandes ce que j'aime à La Palme, c'est...
Déjà, c'est génial comme mot. C'est magnifique, La Palme.
La Palme, oui, c'est joli.
C'est extraordinaire. Hein.
Mais alors, les origines du mot sont diverses et variées. Mais on dira que ça peut être un impôt sur le sel, qui s'appelait comme ça à l'époque. Mais honnêtement, je ne suis pas très féru là-dessus. Et donc... Ce que j'aime à La Palme,
je précise que si vous voulez intervenir à tout moment, poser question à Henri et intervenir, ici, on a le droit. Ce n'est pas ex-cathédrale, là, on pose sa voix. Donc, je vous en prie, si vous voulez intervenir, vous pouvez.
C'est d'abord l'authenticité de ce village. La Palme est un village qui est resté authentique, avec une belle typicité méditerranéenne. Puis, ce qui est agréable ici, c'est d'avoir un petit peu tous ces paysages et tous ces lieux de vie qui sont depuis la mer, la garrigue, l'épinède. Et puis ces Pyrénées qu'on voit au loin, les Corbières qui sont tout près, et cette belle montagne Canigou qui domine de loin notre village et qui semble la protéger.
Henri, beaucoup de littérature, et toi aussi d'ailleurs. Je crois que tu as fait, quand tu étais tout gamin, une rencontre assez extraordinaire. Est-ce que tu peux nous dire laquelle ? Avec un écrivain qui n'est pas le dernier des écrivains français.
Ah, c'était...
J'aimerais beaucoup que tu nous racontes ça.
C'était un grand homme, parce qu'il s'agit d'Henri de Monfray. Alors, c'était un grand homme parce que c'était à la fois un écrivain, c'était un aventurier, et puis c'était quelqu'un de complètement... Alors lui, par contre, si le village est typique, ici, lui, il était totalement atypique. Hein. Et j'ai le souvenir d'Henri de Monfray, qui était un vieillard très sec, avec les cheveux longs et blancs. Et à ce moment-là, mon père était boulanger à Lecate. Hein.
Donc on est en quelle année, là, à peu près ?
Oh, on était dans les années 60. Hein.
C'est ça.
Et on livrait le pain à la Franquille. Alors on passait chez Henri de Monfray, on lui livrait le pain. Alors il était toujours très gentil, très agréable. Et puis des fois, c'était lui qui venait à la boulangerie chercher le pain. Alors il arrivait avec sa vieille Diane ou sa vieille de chevaux. C'est une de chevaux à ce moment-là, je crois. Et comme il avait des cheveux longs et blancs, il avait coutume de les tenir avec un filet d'orange. Ça, c'est extraordinaire. Mais quand j'ai le souvenir d'Henri de Monfray, j'étais jeune, on entendait beaucoup parler quand même déjà.
Mais tu savais qu'il était écrivain quand même déjà.
Ah, je savais, oui, qu'il était écrivain, et puis il m'a dédicacé des livres.
Grand écrivain, grand voyageur. Aussi.
Mais puis depuis, je les ai tous lus, je crois. Mais Henri de Monfray avait... c'était une personnalité, quoi. À la Franquille, on connaissait Henri de Monfray, c'était quelqu'un qu'on respectait, c'était quelqu'un qui représentait à la fois un mystère, hein, quelque part, et puis ce charisme qu'il avait.
Qui fascinait déjà les enfants, en fait.
Ah, il fascinait tout le monde.
Tout le monde.
Il fascinait tout le monde. Et j'étais un fan de cœur quand on l'a enterré à Lecate. Donc pendant la messe de...
Tu as vu son enterrement.
J'étais à son enterrement.
Tu as fait son enterrement.
J'étais un fan de cœur ce jour-là.
Et tu vois comme quoi le fait de vivre à la mer incite quand même au voyage, parce qu'Henri Monfray, ça a été un très très grand voyageur. Un très très grand voyageur.
C'est extraordinaire quand il raconte dans ses livres ces histoires dans des pays qui étaient à ce moment-là
quasiment inaccessibles.
Complètement perdus, inaccessibles, enfin. Et il raconte ces histoires et il les raconte dans un français. Alors, moi, comme toi, on est des amoureux de la langue française. C'est un français très pur, très beau et très riche.
Très classique. Il y a aussi à La Palme un autre écrivain culte qui a eu des grands-parents à La Palme. J'aimerais que tu nous en parles.
Il s'agit de Jouet Bousquet. Alors, c'est tout à fait un autre
registre,
tout à fait notre style d'écrivain. Alors, Jouet Bousquet, ma grand-mère m'en a eu parler parce qu'elle l'avait vu à La Palme. Et ce brave homme avait été blessé à la guerre. Et il était sur un fauteuil roulant. Car il avait d'après toujours ma grand-mère, il avait des traits très fins.
Elle l'a vu sur un fauteuil roulant parce que moi, je pensais que Jouet Bousquet avait passé toute sa vie allongé dans son lit.
Elle l'a vu dans un fauteuil, parce que quand il était. Alors, il a passé une bonne partie de sa vie après, allongé dans son lit.
Et tous les écrivains français allaient à Carcassonne lui rendre visite.
Il avait toute une noriade de visiteurs qui passaient le voir.
André Breton, André Gide,
tout le monde allait le voir. Et c'était quelqu'un de très brillant et qui avait un style de poésie qui était la poésie surréaliste à ce moment-là. Et dont une. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par Jouet Bousquet, c'est Le Roi du Sel. Et Le Roi du Sel, ça se passe à La Palme. Alors, c'est un village de La Palme qu'il a complètement transformé, parce qu'enfin, il a transformé. Il part au départ de choses qui sont très vraies, très réelles. Et puis, évidemment, il y a ce côté surréaliste qui ressort. Il a appelé ce village, d'ailleurs, dans le livre, il n'appelle pas La Palme, il appelle Bonsouris.
Alors nous sommes toujours sur Europe 1 en direct, là je regarde ma montre, donc il est en gros pas tout à fait minuit moins le quart. Est-ce que Sonia, Romain, Aurélia, vous auriez une question éventuellement à poser à Henri une réaction par rapport à sa passion qui émane de La Palme, la manière dont il en parle, Aurélia par exemple?
Moi, c'est délicat de lui poser une question parce que
nos éditeurs ne savent pas.
Il y a Henri quand même, donc du coup j'ai pas forcément de questions qui me viennent là tout de suite.
Alors, vous qui connaissez bien Henri, qui est Henri? Comment est-ce que vous définiriez Henri Forgue?
Oh là là, alors Henri, c'est un épicurien avant tout, je dirais. Il aime la vie, il aime ses amis, il aime le partage. C'est un homme brillant, intelligent.
Très cultivé.
Avec qui on prend plaisir à discuter. Il sait écouter aussi, ça c'est important, même s'il n'est pas forcément toujours d'accord avec son interlocuteur. Il sait écouter, il sait débattre et il est vraiment... Et puis il est drôle aussi. Je le trouve drôle.
Et comme premier adjoint au maire, il est comment? Il est sérieux parce qu'il s'occupe aussi de la comptabilité
Alors,
de la
il
ville.
Il est sérieux, c'est ça.
Les finances.
C'est le trésorier de la commune. Il tient les cordons de la bourse. Il le fait avec un sérieux... Un sérieux sans faille. C'est important pour lui. Je pense qu'il le fait vraiment. Et puis il le fait avec le cœur, même si les chiffres, bon, c'est un peu froid. Il a fait
Subdeco, donc il connaît.
Non, mais c'est sa carrière aussi montre de lui que c'est un homme intelligent et brillant. Et moi, j'ai appris en quelque sorte un peu à ses côtés depuis. Depuis 2014, qu'on se côtoie, en tout cas dans nos mandats d'élus, j'ai appris, parce que j'étais un petit peu plus impulsive que ce que je ne suis aujourd'hui, et j'ai appris en le regardant, pas forcément en recevant des leçons, parce qu'il n'est pas donneur de leçons du tout. J'ai appris juste en l'écoutant, en le regardant, et voilà, je suis ravie en tout cas, et c'est l'occasion aujourd'hui de le lui dire, même si on a déjà eu... Mais je suis ravie d'avoir pu rencontrer Henri Forgue.
C'est un très bel hommage, Henri. Hein,
une déclaration.
Ah ben, complètement, complètement.
Une déclaration qui me met le rouge aux joues, qui me flatte énormément. Et alors, Aurélia dit, j'ai beaucoup appris en le regardant, mais je pense qu'aujourd'hui, l'élève dépasse le maître, hein, et qu'elle a pris toute la dimension qu'il fallait dans ce conseil municipal, parce que... Au bout de quelques années, elle a su tirer elle a tiré parti de tout ce qu'elle entendait, elle a su écouter. Elle était très jeune quand elle a commencé.
Elle n'a pas l'air très vieille aujourd'hui non plus.
Elle
hein.
était très jeune. Alors aujourd'hui, elle est jeune. Mais à ce moment-là, elle était très jeune.
Moins jeune.
Et donc elle a su tirer profit de tout ce qui pouvait se passer autour d'elle. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est vraiment en maturité dans ce conseil municipal. Là aussi, j'ai une grande confiance dès qu'elle s'occupe d'un dossier, parce que je sais qu'il sera mené à bien.
Je te remercie, Henri,
est-ce que tu connais... Il y a quelqu'un qui nous envoie un SMS. Il nous dit... Je suis ancien notaire, spéléologue, spationaute de La Palme. Je mérite d'être cité comme citoyen d'honneur. Tu vois qui c'est ? Un spationaute, spéléologue, notaire de La Palme. Non ? Ça te dit rien ? Ton micro.
S'il mettait son nom,
oui, c'est exactement ce que j'ai dit à Nicolas. Ma chère Sonia, est-ce que vous auriez une question à... Vous connaissez Henri ? Vous le connaissiez déjà, Henri Forgue ?
Pas personnellement, je ne l'avais pas encore
Ah, le mythe, vous connaissiez le mythe ?
Bien sûr.
La réputation.
Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me sens toute petite face à lui, face à ce grand monsieur quand même, qui a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je suis admirative.
Et donc vous êtes accompagnée, vous Sonia, de votre compagnon Romain, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et Romain, est-ce qu'il connaissait Henri Forgue ?
Absolument pas.
Non, je ne le connaissais pas. Et en fait, moi, je me posais une question, c'est comment on peut en fait se vouer un village comme ça ? Comment on peut se vouer à un village comme ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose un jour qui vous a dit La Palme, j'y resterai à vie, je veux tout faire ici ?
Plusieurs raisons. La première, et la toute, qui est la plus naturelle, c'est que depuis mon plus jeune âge, je viens à La Palme. C'était le pays de ma grand-mère, de mes cousins, etc. Donc, je venais souvent ici, je me sentais très palmiste. Puis il y a le fait aussi que le maire actuel, c'est aussi mon cousin. Alors, quand il s'est lancé dans son premier mandat, eh bien, je lui ai dit, écoute, je viens, je t'épaule et je suis près de toi pour t'aider dans cette tâche, parce que bon, c'était pas évident, c'était un challenge pour lui et c'était un challenge pour nous. Et puis, ce village mérite, il y a un potentiel extraordinaire. Et ce village mérite qu'on s'y penche dessus, d'autant que j'avais aussi de la disponibilité, j'avais plus de temps que ce que j'en ai eu pendant toute ma carrière. Donc, dans la mesure où j'avais plus de temps, j'ai pu me consacrer un peu plus à la commune, et en plus de m'occuper des finances de cette commune, je me suis occupé aussi de grands projets. Et ces grands projets qui me tenaient à cœur, j'essayais, alors c'est des projets qui sont longs à mettre en œuvre, mais qui seront aussi, je pense, des facteurs de développement importants pour le village. Donc c'est un peu toutes ces raisons qui m'ont amené à me consacrer un peu plus à ce village de La Palme, qui est mon village aujourd'hui et qui est mon village depuis quelques années, puisque j'ai un peu la double nationalité. Je suis de Le Cat et de La Palme, à moitié par mon père et à moitié par ma mère. Et dans ces deux villages que j'aime énormément, j'aurais pu très bien aussi m'investir un peu plus aussi à Le Cat. C'est un village que j'aime beaucoup. Mais à La Palme, l'opportunité a fait que je m'y suis investi pleinement. Et je ne regrette pas du tout, parce que c'est un village qui me le rend bien.
Est-ce que tu sens, toi, Henri, une sorte, sinon d'arrogance, du moins d'égocentrisme parisien ? Ou est-ce que tu sens qu'il y a quand même une coupure entre la capitale et le reste de la France ?
Cher ami, quand on te connaît, tu es là pour démentir tout ce que tu viens de dire.
Parce que je ne suis pas parisien.
Ah non, tu n'es pas parisien, tu es orléanais.
Je suis né à Nevers.
À Nevers.
Donc,
à Nevers.
Nicolas, il est parisien. Benoît est d'Angers et Mathilde est de Strasbourg.
Alors, honnêtement, non, je ne sens pas... Je sens pas un regard des Parisiens arrogant, même pénible par rapport à notre village. Mais c'est vrai qu'ici, on n'a pas du tout la même mentalité que ce qu'il peut y avoir à Paris. On parlait tout à l'heure ensemble des Parisiens quand ils marchent. Les Parisiens, quand ils marchent, ils courent.
Et hors micro, tout à l'heure, on parlait de ça.
Et hors micro. Et,
tu me disais que même à New York, les gens marchent plus lentement qu'à Paris.
J'étais surpris, quand je suis allé à New York, de voir les gens qui marchaient tranquillement dans les rues, alors qu'à Paris, on les voyait presque courir. Et à La Palme, cette différence de rythme de vie, on l'a aussi. C'est-à-dire qu'on ne court pas, On fait les choses qu'il y a à faire, on prend le temps pour les faire, et quelque part, quelquefois, alors le maire en parlait tout à l'heure, on est un petit peu gêné. On
va peut-être rappeler son nom d'ailleurs au maire.
Jean-Paul Forand. Jean-Paul Forand, le maire, le disait tout à l'heure, on est un peu gêné quelquefois par le zèle que peuvent faire certaines administrations par rapport à l'application de la loi.
D'ailleurs,
des lois qui sont un petit peu décalées par rapport aux besoins.
Est-ce que là, sur Europe 1, à presque minuit, tu peux donner un exemple d'aberration, juste pour que ça parle aux gens, si tu en as un en tête, hein.
Mais écoutez,
en direct sur Europe 1, dans Antenne Libre.
Voilà.
Henri Forgue.
Il y a la plage à La Palme, une plage. Cette plage, ce n'est pas une plage urbaine, c'est une plage qui est sauvage. Et cette plage a toujours été accessible par les véhicules parce que il y a pas d'autre moyen de s'y rendre et de se garer. Alors, donc on est obligé de se garer sur une piste qui a été petit à petit faite sur cette plage, qui est d'ailleurs 6 mois par an.
D'accord.
Et sur cette plage, donc, il y a, dans le respect de la loi littorale,
oui,
qui date de 86, au bout de 30 ans, on nous dit ben, il ne faut plus aller sur la plage en voiture. Parce que c'est interdit, parce qu'on ne peut pas rouler sur les plages en voiture. Bien sûr qu'on ne peut pas rouler sur les plages en voiture. On se dit quand même, nous, on est toujours allé à la plage avec la voiture. Et l'organisation prévaut sur l'interdiction. Et c'est la raison pour laquelle on a fait des propositions, mais il a fallu se battre contre des règlements et contre des lois pour arriver, justement, à ce que l'organisation du stationnement soit mise en place, soit travaillée. Alors après, les pouvoirs publics nous ont très bien compris. Mais dans un premier temps, ça a été compliqué de controvertir un petit peu cette loi, d'aller à l'encontre un petit peu de la loi littorale, qui strictement interdit le roulage sur la plage. Il est évident que le roulage sur la plage, il faut le modérer, il faut l'organiser, il faut le limiter, mais on ne peut pas complètement l'interdire sous peine d'interdire aux gens de se rendre à la plage.
Bien sûr. Tu connais Bien fait pour vous, l'émission de Julia Vignelli et Mélanie Gomez, du lundi au vendredi de 11h à midi ?
Non.
Ben, tu devrais, parce que non seulement c'est une bonne émission, mais en plus, mon cher Henri, ma chère Aurélia, ma chère Sonia et mon cher Romain, le vendredi 24 mars, elles accueillent Marie-Claude Tréglia, journaliste Psychologie Magazine, et Catherine Emelet-Périssol, psychologue, sur le sujet « Comment se libérer la culpabilité ?» Ça m'intéresse tellement que je n'ai pas réussi à le lire. Non, mais je plaisante. Mais en fait, voilà, à chaque fois que je fais une plaisanterie de mauvais goût, je vois la tête de Nicolas et Mathilde qui pensent qu'ils vont se faire renvoyer dès le lendemain, alors que pas du tout. J'ai eu du mal, j'ai accroché sur un mot, mais c'est comment se délivrer de la culpabilité, ce qui est un très bon sujet d'ailleurs. Comment se délivrer de la culpabilité? Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet, toi, de Julia Vignelli?
J'y réfléchirai ce soir et puis on en reparle demain.
Non, mais c'est un vrai sujet. Sonia, est-ce que tu voudrais rebondir sur ce que vient de dire Henri? Non. Romain, peut-être? Sympa de m'aider pour faire de la radio, les gars. Heureusement qu'Aurélia va nous embrayer le pas sur les propos d'Henri.
Alors, sur les propos d'Henri...
Non, on parlait des aberrations qui viennent d'en haut et qui parfois, quand on est obligé de calquer des choses un peu bureaucratiques sur la réalité du terrain, on s'aperçoit qu'il y a une distorsion, qu'il y a un écart.
Oui, mais ça, je crois que je ne suis pas sûre qu'il faille forcément l'étayer par un exemple. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu conscient de ça. Je crois qu'on le vit tous, qu'on soit citadin ou qu'on soit issu du milieu rural. Enfin, je crois qu'on est tous, à un moment donné, un peu confrontés dans sa vie à notre vie et à son niveau et l'administration et ses... Et ses labyrinthes, et sa complexité, et ses aberrations, et ses contradictions. Je ne sais pas si vraiment des exemples sont forcément parlants ou pas, mais c'est vrai que dans nos mandats d'élus, on y est peut-être un peu plus prêt, en tout cas, quand on le voit et où on doit effectivement un peu se battre, entre guillemets, contre certaines choses parfois. Mais bon, c'est ce qui fait aussi... la richesse et le côté intéressant du combat, entre guillemets, par moment. Mais en revanche, je rebondis sur l'histoire du rythme et de Paris, etc. Moi, j'y habitais un petit peu. Et on prend vite...
Paris.
Oui, on prend vite le pli de marcher comme les Parisiens, en fait. Moi, je me suis rendu compte que je finissais aussi par plus trop regarder les panneaux dans le métro et marcher tête baissée dans les couloirs. Du coup, c'est un peu triste parce qu'on ne regarde plus les gens. Enfin, au début, moi, je regardais les gens en souriant un peu bêtement. Bon, ils devaient me prendre...
Ils ont dû se dire, elle est de la palme, celle-là.
Une folle psychotique, ouais, sûrement. Mais bon. Et puis, en fait, on prend le pli assez rapidement et malgré soi. Mais malgré tout, chez nous, même si on fait les choses à un autre rythme, on les fait. Voilà, on les fait. On n'est pas cette espèce de cliché de gens du Sud qui...
Bien sûr.
Bon,
les clichés, c'est la mort.
Sans le faire.
D'ailleurs, on parlera peut-être un peu de ton parcours après Aurélia, mais est-ce que tu sais que dans deuxième heure, après une archive de Nicolas... On va écouter du Frank Zappa, parce qu'on est très fan de Frank Zappa, mais on va faire aussi une dégustation, grâce à notre amie Sonia, qui est venue avec Romain et du vin.
Non,
elle est venue avec du vin et Romain.
Romain, c'est une option. Exprès.
Romain a porté le vin, quoi.
Tu peux, il nous reste deux minutes, là, mais avant qu'on arrive en deuxième heure de l'émission, est-ce que tu peux à toute vitesse te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, je me présente. Je m'appelle Sonia et je travaille sur le site de Terra Vinea. Donc, un très beau site qui regroupe...
Oui, il paraît que c'est extraordinaire.
Tout à fait. L'histoire des mineurs et également celle d'une reconstitution historique sur l'histoire de la vigne et du vin. Donc, on propose, lors de la visite... un départ avec un petit train qui est suivi d'une visite qui est guidée en saison, donc en juillet et en août, et audio-guidée hors saison, parce qu'on n'a pas le personnel nécessaire, et qui est suivi donc d'une dégustation de vin, dont je vais vous présenter tout à l'heure un petit peu les détails.
Et Romain, il en pense quoi de tout ça, lui ?
Romain, il est content de déguster aussi, il connaît bien le...
Il a l'air fumé, lui. Non.
Il connaît bien.
T'es fatigué, non. Romain. T'as l'air un peu claquemane.
Non, du tout.
Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie, Romain?
Alors moi, je travaille pour une grande enseigne de bricolage à Lézignan.
Ça nous intéresse pas du tout.
Voilà.
Non, je plaisante.
Ah, on y passe toujours.
Non.
Et puis voilà. Donc j'ai accompagné Sonia le jour de son entrée dans ce travail-là.
Et elle fait très bien son travail.
Elle fait très bien son travail et. J'ai tout de suite vu que c'était fait pour elle, donc c'était son cadre.
D'accord. Qu'est-ce que tu penses, Romain, du fait qu'il soit 23h59 minutes et 43 secondes sur Europe 1 ? Ça t'inspire quoi ?
On avance vers le prochain jour.
Mais après, à force. Tu sais, comme disait Raymond Devos, j'ai un ami, il ne pouvait pas s'empêcher de vieillir, mais il en est mort. C'est ça le problème avec le temps, c'est que ça finit toujours par passer. Et d'ailleurs, je vais être obligé de vous le dire très franchement en face, il est minuit sur Europe 1, Carillon.
Europe 1. Europe 1. Antenne libre. Yann Moix accompagne vos nuits.
Vous êtes donc sur l'antenne libre, sur Europe 1, en direct. Nous sommes à La Palme, extraordinaire village de l'Aude. On ne voudrait pas non plus en faire trop de publicité, parce que si on s'est éloigné un peu de la civilisation, enfin de ce que vous pensez être la civilisation, alors que pour moi la vraie civilisation elle est ici... C'est pas pour non plus qu'on soit envahi par des gens indésirables. Mais le village de La Palme a beaucoup de qualités. D'abord, la garrigue, la mer, le vent. Et ce que j'aime bien dans les endroits où il y a du vent, c'est que plus il y a de vent, moins il y a de cons. Les cons fuient le vent. C'est vrai, les cons veulent toujours se protéger du vent. Et bien, tant mieux. Le vent chasse le con. Il le fait fuir vers Saint-Tropez, Sainte-Maxime. Là où il y a du soleil, il n'y a pas un brin de vent. Au milieu des bimbos. Au milieu des rails de coke. On n'a pas besoin de ça à La Palme. Nous, on va faire une vraie dégustation de vin. Il n'y a pas de bimbo, on n'en veut pas. Le maire se couche à 20h30. Et encore, les soirs de fiesta, quand il a bu deux tisanes. Hein ? Parce que quand le maire a pris une bonne tisane, après c'est une soirée de débauche, il va faire un tour de pâté de maison et il en prend une après au fenouil. Et ensuite, plus rien jusqu'à 5h du matin. Et c'est ça que nous apprécions à La Palme, c'est que nous n'avons pas besoin d'aller en soirée avec Frédéric Becbédé prendre des rails de coke pour nous sentir vivants. Ici, le vin, le terroir, la conversation, le dialogue, la rencontre de gens intéressants nous permet de reprendre vie. Et ça, c'est très intéressant. Et il y a beaucoup de villages comme ça en France, beaucoup d'endroits où on oublie qu'on pourrait vivre, mais on se fait croire, Paris nous fait croire qu'on est obligé d'y vivre. Et c'est la grande arnaque de Paris. Paris nous fait croire que c'est là-bas que ça se passe. Mais il se passe quoi ? Il y a des expositions dans des musées, on n'y va jamais parce qu'il y a 7 heures de queue. Il y a plein de cinémas, mais on n'y va pas parce qu'on les regarde sur notre iPhone, les films. Il y a plein de librairies, mais on ne lit plus. Il y a des soirées mondaines, mais on n'y va pas parce qu'on ne digère plus les petits fours. Puis il y a des boîtes de nuit, mais comme on a peur de se faire tabasser en sortant, on est mieux à La Palme. Et les grands résistants, maintenant, vont venir à La Palme, mais on n'en veut pas trop, hein, Henri, hein, pas trop de monde, hein, quand même.
Ce sera une sélection positive que nous ferons.
Avec modération, hein, les nouveaux venus.
Avec modération, mais tout doit se faire avec modération.
Et moi,
déguster le vin doit se faire avec modération.
Mais Henri, vous savez, je vais dire un truc, après je vous laisse tranquille, je vous laisse parler. Mais moi, je suis comme les académiciens français. Maintenant que je suis à La Palme, je veux plus que personne n'arrive. Les académiciens, une fois qu'ils sont élus, ils veulent plus que personne ne rentre.
Ça, c'est vrai qu'il faut, là aussi, il faut qu'il y ait un afflux de gens qui viennent à La Palme, mais avec modération.
Avec modération.
Voilà. Et donc, on pourra fixer le nombre, mais il faut bien le réfléchir avant.
Je voudrais quand même dire à tous ceux qui voudraient habiter La Palme qu'il y a un examen de passage. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve écrite, 2 fois 7 heures. Ensuite, il y a une épreuve orale, parce qu'on peut être admissible pour habiter à La Palme. C'est le seul village en France, Nicolas, et je le dis aussi à Benoît et à Mathilde, qui cherchent une maison à La Palme. Moi, j'ai passé le concours 3 fois. J'ai pas été admissible les 2 premières années. J'étais grand admissible la 3e année, sur les 2 fois 7 heures d'épreuve écrite. Et ensuite, il y a une épreuve orale, avec dégustation de vin. C'est très difficile, il faut connaître tout aussi sur le schiste.
Et puis il y a l'épreuve comportementale qui est coefficient 5.
Oui.
Et celle-là, elle est vraiment difficile à passer. Hein.
Oui, parce qu'il y a une mesure des chevilles et de la tête. Et il y a certaines personnes qui sont, voilà, dont les têtes ne passent plus à travers les portails. Et ils redoublent, ils sont recalés. Et il faut faire aussi une lettre de motivation à Henri Forgue. Alors, si la lettre de motivation est trop faillotte, c'est pas bon. Si elle n'est pas assez, il ne faut pas exagérer non plus, il a un égo, c'est pas bon non plus. Donc on peut être recalé. C'est le seul village de France. Je crois que les 2 concours les plus difficiles en France sont la grecque de philo et devenir palmiste. Parce que c'est pas parce que. Alors attendez, parce que c'est pas parce que vous habitez à La Palme que vous êtes palmiste. C'est comme les ceintures de judo ou de karaté. Il y a les gens qui se pensent palmistes au bout de 5 minutes. Moi, par exemple, je suis ceinture blanche. Je sais très bien que pour devenir ceinture noire 6e dan comme Henri, c'est une vie de travail. Si dans 10 ans, j'ai la ceinture orange, j'aurai réussi quelque chose dans ma vie. Nicolas, Mathilde, quelle est la suite de la soirée ?
Alors Yann, moi je vous propose d'écouter une archive ce soir et oui, de parler d'un homme peu connu à son époque et oublié aujourd'hui, c'est Pierre Etex. Auteur, cinéaste, clown. Ben non.
Vous savez que je devais déjeuner chez Pierre Etex. Et il est mort le jour où j'avais rendez-vous avec lui pour déjeuner, parce que j'avais annulé le déjeuner.
D'accord.
Et je m'en remettrai jamais.
Eh bien, écoutez,
un génie.
On va l'entendre dans un instant. Donc, je rappelle quand même qu'il réalise son premier long métrage, Le Soupirant, en 1963, puis Yo-Yo, en 1964, film qui rend un vibrant hommage au monde du cirque qu'il fascinait. Alors, je vous propose donc d'écouter un reportage de François Jouffa pour Europe 1, pardon.
On salue François.
Oui, tout à fait, avec Jerry Lewis qui rend un hommage à ce grand artiste suivi d'une interview de Pierre Etex.
Le nom, le seul nom de chevalier
in other words, not a category.
Aux États-Unis pour tout
singer,
le monde.
Comique, dancer, chevalier, boom.
You know, and but when Fernandel was in a class, comique, magnificence, and tati, but for me, Pierre Etex is super. Superior of all in
the
world.
Pierre Etex est supérieur à tous les autres.
And no one in America knows Pierre
Etex. Mais personne aux États-Unis le connaît.
And some in France don't know.
Et en France aussi, certains ne le connaissent pas.
And they should.
Et ils devraient le connaître.
Pierre Etex, c'est quand même un hommage extraordinaire que vous a rendu Jerry Lewis.
Oui, je dois dire, je suis très 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 ému, ça me touche beaucoup.
Comment vous l'expliquez ? Il a vu vos films, ce qui n'est déjà pas si facile sans lui pour un Américain.
Je l'explique de la façon suivante, c'est que, en fait, il y a une chose qui nous a rapprochés dès le premier jour, c'est ce qui est devenu légendaire et qui est la fausse poésie, la solitude des comiques. Je crois qu'il a vu à travers le film qu'il a vu de moi, qui était Yo-Yo à l'époque, il a vu tout ce qui le touche directement, tout ce qu'il ressent lui-même, il l'a senti dans le film. Et c'est ce qui nous a rapprochés dès notre première entrevue. Je crois que dans Yo-Yo, il a vu des tas de choses qu'il aimait et qu'il aurait aimé faire, comme je vois dans chacun de ses films, des tas de choses qui me concernent directement.
Eh bien voilà, très belle archive Nicolas. Alors là, ça me fait très plaisir d'entendre Pierre Etex, parce que je le dis à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est un génie qui nous a quittés, je crois, en 2015 ou 16. Et c'est un génie total, et c'est pour moi le Chaplin français. C'est vraiment... Alors, il a eu beaucoup de problèmes, parce que ses films n'ont pas pu être vus pendant des années pour des questions de droit, d'ayant droit. Maintenant, on peut voir tout Pierre Etex en DVD. J'espère que cet automne, on pourra, mon cher Henri, ma chère Aurélia, peut-être... J'en rêverais faire découvrir aux palmistes, aux familles, aux enfants, des films de Pierre Etex en faisant un festival Pierre Etex, en montrant tous ces films, parce que c'est vraiment des chefs-d'œuvre et c'est vraiment du très très grand cinéma et populaire en plus. Et un samedi soir, un dimanche après-midi, on pourrait faire des journées Pierre Etex pour les gens de La Palme, et je crois que ça serait vraiment un très grand moment. Mathilde, je vous passe un peu le relais.